Et on reçoit nos correspondants et correspondantes d'un bout à l'autre du Canada, Dan Robichaud, qu'on retrouve à Clare, en Nouvelle-Écosse. Il y a Arnaud Boudry, qu'on retrouve à Toronto, et Roseva Fork-Jenkins, qu'on retrouve à Edmonton. Bonjour tout le monde, ça va bien?
Bonjour.
Ah, c'est le fun de vous retrouver. On va commencer avec toi, Dan, tout de suite, parce que il y a eu beaucoup d'élections provinciales cette année. Il y en a eu quand même deux dans ta région. Et la deuxième, on vient de connaître les résultats, c'est en Nouvelle-Écosse. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette élection et en quoi ça va influencer nos communautés?
Pour les gens qui regardent la Nouvelle-Écosse, ils ont constaté que la dernière élection provinciale, le gouvernement conservateur a rapporté une super majorité, rapportant presque 98% du vote. Ce qui est tout à fait l'inverse du Nouveau-Brunswick et notre voisin de l'autre côté. Ce qui rend spécial l'élection en Nouvelle-Écosse, c'est qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas la question LGBTQ, ni même trans, qui est la patate chaude, c'est vraiment la pêche et la pêche au homard.
Ah
Ça fait que
ouais.
je pense qu'on se trouve éclipsé derrière ça. Traditionnellement, on sait qu'un gouvernement conservateur, ça peut vouloir dire même des reculs pour la communauté gay, mais on est un peu protégé là, cette fois-ci dans cette élection avec le gouvernement conservateur parce que l'issue à la une, c'est la pêche commerciale.
Est-ce que tu penses que le fait qu'ils ont vu comment le gouvernement conservateur de la province voisine s'est fait jeter dehors, puis c'est un gouvernement qui était conservateur social, ça a comme un petit peu indiqué où ne pas aller à ce gouvernement de Nouvelle-Écosse?
Exactement. Déjà, on est pas mal le leader en Nouvelle-Écosse, surtout pour les soins de santé et pour l'inclusivité. Mais je pense qu'on va trouver que le gouvernement qui est en place maintenant va suivre l'exemple du Nouveau-Brunswick plutôt que de créer des nouvelles polices qui auraient des réactions.
Bon, alors, ça nous amène à parler de notre deuxième sujet, puis ça va inclure pas mal tout le monde parce que c'était le 1er décembre, la journée mondiale du sida. C'est quoi la réalité du VIH dans nos régions? Puis j'ai quand même vous signaler qu'au Canada, en 2023, on a noté une hausse encore de 25% des nouveaux cas de VIH. Ça veut dire qu'on va vraiment pas dans la bonne direction parce que si on veut atteindre les objectifs de non-sida pour 2030, bien, je sais pas, il faudra qu'on fasse mieux que ça. Je ne sais pas comment on explique ça, ces hausses-là. On a eu quand même une discussion ici à l'émission, mais dans vos régions, comment est-ce qu'on explique ça? Je pense que j'irais peut-être dans l'Ouest, Roseva, qu'est-ce que c'est qui se passe, qui fait qu'il y a encore autant de nouveaux cas de VIH et encore chez les hommes gays, toujours et avant, toujours comme avant?
Oui, alors c'est quelque chose que tu sais, c'est malheureusement, c'est encore quelque chose qu'on voit. Et je pense, tu sais, pour moi, ça me ramène à, tu sais, le fait que notre gouvernement, tout de suite en Alberta, la première ministre veut passer des lois pour avoir des restrictions pour l'éducation sexuelle pour les jeunes. Alors, le fait que les jeunes, faudrait avoir la permission des parents pour être éduqués en éducation sexuelle, si les parents signent pas leurs papiers, les jeunes vont pas s'éduquer. Et je vois vraiment ça comme, tu sais, il y a beaucoup de facteurs pourquoi il y a beaucoup de VIH, mais je pense vraiment, tu sais, le fait que la province va dans la mauvaise direction, que la province veut donner plus de barrières pour que les jeunes puissent apprendre, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très, très concernant. Un autre, tu sais, je faisais aussi de la recherche. Il y a une enquête qualitative qui vient d'être, tu sais, publiée sur des jeunes trans et non binaires qui parlaient de leurs expériences en grandissant en Alberta. Puis 100% de ces jeunes qui ont parlé ont dit que l'éducation sexuelle n'était pas satisfaisante. Ils n'ont pas appris ce qu'il fallait. Il fallait prendre l'information, aller chercher ça sur l'Internet, aller trouver des autres façons. Alors, je pense que c'est vraiment, l'éducation publique, il y a encore beaucoup de stigma, tu sais, à l'école et à d'autres places, que c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup parler. Il y a encore le stigma que ça fait, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas ouvertement. Et puisqu'on n'en parle pas ouvertement, c'est quelque chose que les gens n'ont pas assez d'informations pour savoir comment bien gérer, dans mon opinion.
Et j'imagine que c'est pas très différent en Saskatchewan parce qu'on a un gouvernement semblable là, à celui de l'Alberta, un gouvernement pas mal de droite. Alors c'est sûr que ça aide pas beaucoup. Est-ce qu'on peut aller peut-être faire un petit tour du côté de l'Ontario, Arnaud? Comment est-ce qu'on explique cette situation-là? Il me semble que En 2024, on aimerait ça que les choses aillent mieux.
Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Roséva. Je pense qu'il y a une prévention qui est insuffisante. Nous, on le voit par exemple dans les communautés de personnes nouvellement arrivées qu'on sert. Il y a vraiment un besoin de diffuser plus d'informations. Alors, nous, on contribue à ça, mais c'est sûr que pour beaucoup de personnes, quand tu arrives dans un environnement où tu te découvres une nouvelle vie, tu te découvres une nouvelle liberté, tu explores, ben peut-être c'est pas quelque chose que tu as forcément en tête. Donc c'est important de vraiment diffuser l'information concernant la prévention. Puis peut-être un autre élément, c'est que bon, le VIH, maintenant, ça devient comme une maladie chronique dans la manière de la gérer. Donc peut-être il y a moins ce sentiment d'urgence ou de crainte, ou en tout cas ça réduit un peu la crainte dans nos communautés, ce qui fait que la prévention est moins à l'esprit. En tout cas, les pratiques de prévention, l'usage du condom qui tend à disparaître, en fait. Il y a de plus en plus de comportements sexuels sans l'usage du condom, donc il faut avoir une stratégie de prévention associée à ça, et il en existe.
Mais là, il en existe justement parce que j'étais pour amener le point de la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, ce fameux médicament qu'on prend avant d'avoir des relations sexuelles qui ne sont pas nécessairement protégées par le préservatif, puis qui l'est avec ce médicament. Il est disponible. Pourquoi ça ne fonctionne pas?
Mais je dirais que ça fonctionne quand même. Je veux dire, en
Oui,
tout
ça
cas,
fonctionne, mais pourquoi
médicament
ça. Oui,
fonctionne.
oui.
Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'usage? Je n'ai pas les chiffres spécifiques en tête, mais ça se diffuse en tout cas dans nos communautés. Beaucoup de personnes choisissent de suivre la PrEP. Après, peut-être qu'il y a un enjeu d'adhésion par rapport à, c'est-à-dire s'assurer qu'on prend le médicament régulièrement. Il faut prendre le médicament tous les jours pour assurer la prévention à 100%.
Ouais.
Donc peut-être qu'il y a du travail à faire par rapport à ça, vraiment de s'assurer que le médicament est pris comme il est censé être pris. Puis il y a la PrEP aussi. Alors même si on a été exposé, si on a eu une situation à risque, il y a toujours l'option de la prophylaxie
Poste,
post-exposition.
oui. La PPE, qu'on dirait en français, la post-exposition, oui.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Euh,
Mais
donc ça,
dis-moi.
c'est aussi des médicaments à la suite d'une exposition à risque qui permettent d'éviter les risques de développer la maladie.
Alors, ici au Québec, un des problèmes avec la PrEP, c'est que les gens doivent débourser un certain pourcentage, je pense que c'est 20 % qui peut aller jusqu'à 180 $, de 90 à 100 $, je ne sais pas trop combien, pour utiliser. Je ne sais pas parce que je ne l'utilise pas, je vais vous dire, parce que moi, comme je suis séropositif, je prends un médicament qui me rend indétectable. Mais bon, la fameuse PrEP coûte de l'argent et ce n'est pas payé par le gouvernement. Les gens doivent mettre ça de leur poche et c'est beaucoup d'argent. Est-ce que c'est le même problème dans vos régions?
Je
Comme
sais
en Ontario, oui.
qu'en Ontario, c'est couvert.
Au complet?
Je pense que c'est couvert dans certains cas, oui. C'est-à-dire quand tu passes, il faut passer par des cliniques spécialisées. Tu peux avoir accès à la PrEP de manière gratuite. Puis évidemment, si maintenant la plupart des assurances privées la couvrent, donc je pense que c'est de moins en moins un enjeu, mais c'est sûr que par rapport à ça, il y a des enjeux de bureaucratie. Il faut passer à travers les processus, il faut remplir les papiers, les demandes d'accès pour avoir ça couvert.
Donc, il n'y a pas tant de déductibles à payer comme on a ici au Québec. J'aimerais savoir, Dan, de ton côté, comment on explique ça, cette montée des cas alors qu'on devrait descendre
La montée des
dans ta région, que ça, comment on explique ça?
c'est préoccupant. Une des manières qu'on peut l'expliquer, c'est que une des obstacles qu'on voit en Nouvelle-Écosse, parce qu'en Nouvelle-Écosse, la PrEP est couverte par PharmaCare, c'est-à-dire qu'on paye juste un pourcentage comme tous ces autres médicaments. Mais l'obstacle, c'est qu'il faut quand même s'identifier à son médecin comme faisant partie des communautés à risque. Il faut s'exposer à son médecin qu'on a ces relations sexuelles-là avant d'être considéré pour la PrEP. Puis je pense que ça demeure un obstacle. Je n'ai pas la solution magique. Je suis séropositif moi-même et je n'ai point la solution pratique. Je vois souvent des gens qui me disent, oh, je suis sur la PrEP, mais il reste que l'obstacle est qu'il faut s'identifier à son médecin.
La stigmatisation, ça demeure un problème. La stigmatisation, Arnaud, c'est quelque chose qui te parle, ça? C'est un problème chez vous?
Bah, oui, certainement, oui, ça contribue. C'est encore quelque chose qui est présent. Et c'est vraiment triste comme quand je vois, là, je pense encore aux communautés des personnes nouvellement arrivées. Je reviens à la question d'informer parce que ça revient à ça. C'est stigmatisé encore alors qu'il y a vraiment une mauvaise compréhension de à quoi ressemble la maladie aujourd'hui. Le VIH aujourd'hui, c'est plus le VIH des années 80. Il y a des manières de le gérer, il y a des manières de le prévenir. Comme je disais tout à l'heure, c'est plus géré comme une maladie chronique maintenant. Donc, la situation n'est vraiment pas pareille. Je pense qu'il y a encore un besoin de continuer le travail d'information et de prévention.
Le gouvernement, on sait que I égale I, vous connaissez ce fameux slogan, là, qu'un détectable égale intransmissible. Donc, une personne qui, même une personne séropositive, qui a une charge virale indétectable, donc qui prend son médicament qu'on appelle les traitements antirétroviraux, les TAR, cette personne-là, donc, ne transmet pas la maladie. Or, tellement peu de gens sont au courant. Puis, je me rappelle, lors de la conférence AIDS 2022 ici à Montréal, on avait promis de faire une campagne là-dessus. Avez-vous vu quelque chose, vous autres? Roséva, oui.
Personnellement, non, puis pour moi, tu sais, ça, oui, ça revient encore à l'éducation et l'éducation publique. Puis comme, oui, en revenant, tu sais, parler de la stigmatisation, tu sais, je sais qu'ici en Alberta, la PrEP et la PEP, c'est couvert. Par contre, j'ai déjà eu, tu sais, parler à des amis qui m'ont dit qu'ils ont demandé à leur docteur et leur docteur ont dit, ah, oh, c'est quoi ça? Alors, avoir à expliquer à notre médecin c'est quoi et pourquoi on le veut. Ça crée des barrières. Alors, pour moi, ça va encore à la stigmatisation. Puis, je retourne aussi à, tu sais, quand on pense à les années 80, c'est intéressant quand on regarde l'histoire de Gaétan Dugas, qui était quelqu'un qui travaillait comme agent de bord au Québec, qui vivait en Colombie-Britannique. Puis, c'était un des premiers cas de. Qu'il y a eu la VIH, puis qu'il y a eu une grosse stigmatisation de cette personne, disant, oh, c'est patient zéro. Dans l'histoire, on le faisait comme si c'était quelqu'un qui faisait par exprès de passer la maladie, que c'est quelqu'un qui avait une intention négative, quand c'était quelqu'un qui s'est vraiment fait sujet à beaucoup de tests pour, en faisant, étant quelqu'un qui s'est mis comme patient zéro, puis qui a soumis tous ces tests, ça nous a permis d'apprendre beaucoup, beaucoup. Alors, c'est quelqu'un qui devrait être vu comme un héros, mais au lieu, dans les médias, on le mettait comme si c'était quelqu'un qui faisait quelque chose de négatif par exprès. Alors, je pense, tu sais, on voit encore cette stigmatisation dans l'histoire quand on parle de le VIH.
Vous allez me permettre, je vais quand même noter une chose qui est importante ici, parce que ça, c'est l'histoire de Randy Shields and the Band Played On, qui raconte l'histoire du patient zéro. Et cette histoire-là a été discréditée. Ce n'est pas lui qui a mis le VIH partout. Mais je trouve que c'est important de mentionner que finalement, c'était quelqu'un qui essayait de changer les choses. Et malheureusement, merci de l'avoir noté. J'aimerais, mon Dieu, le temps passe. Il y avait là un autre aspect que je trouvais important peut-être à vous demander ce que vous en pensez. Le gouvernement avait promis en 2022 encore, à AIDS 2022, ça fait déjà 2 ans, plus que 2 ans de ça, de revoir tout le dossier de la criminalisation du VIH. Puis il n'y a absolument rien qui a été fait encore. Et ça, est-ce que ça joue aussi dans nos efforts de prévention, le fait qu'on criminalise encore les gens qui peuvent transmettre le VIH? Dan,
Moi, je suis séropositif. Ça va, je vais parler. C'est vrai qu'il y avait un engagement du gouvernement du Canada. Après que rien n'avait été fait ou rien de mesurable, il y avait le sénateur indépendant René Cormier qui avait fait passer ou mouvé un projet de loi pour effectivement que le gouvernement fédéral rencontre ses promesses sur le SIDA-VIH. Puis je pense que beaucoup des choses qu'on parle de la stigmatisation, la décriminalisation ou la criminalisation du sida revient à ça, que le gouvernement fédéral ne rencontre toujours point ses engagements envers la communauté séropositive et du VIH-SIDA et qu'il faut continuer à mettre des pressions sur le gouvernement fédéral à trouver ces enveloppes-là.
Mon Dieu, j'aurais aimé qu'on parle aussi. On n'aura pas le temps de le faire, mais on le fera à la prochaine chronique où on se trouve un autre moment. J'aimerais qu'on parle de la consultation de Franco-Queer en Ontario parce que c'est important. On va y revenir, Arnaud. Mais j'aimerais, il nous reste 2 minutes, notre dernière rencontre de 2024. Je vous donne quelques secondes chacun pour nous dire qu'est-ce qu'on se souhaite en 2025 comme communauté. Roséva, tu souris. Je sais que tu ne te sens pas bien aujourd'hui, mais je te donne la parole tout de suite.
Oui, ben en 2025, tu sais, je pense que on voit comment les grandes, tu sais, peut-être le gouvernement, les différentes choses, c'est pas eux qui vont nous libérer, c'est vraiment nous comme communauté qui va nous libérer. Alors, je souhaite à tout le monde, c'est une grosse communauté forte pour s'entraider et vraiment penser comment qu'on peut être là pour nous-mêmes.
Merveilleux. Arnaud, qu'est-ce qu'on souhaite en 2025? En plus
Écoute.
de ça.
Oui, j'adore ce que tu viens de dire, Roséva, et c'est ça, une communauté forte. Moi, j'ai envie de dire contribuer à ouvrir les cœurs et les esprits, parce que c'est comme ça qu'on va contribuer au changement. Et je pense que chaque personne dans nos communautés a le pouvoir de contribuer à ce changement-là. Donc, je nous souhaite du bonheur, une communauté forte et une ouverture d'esprit et des cœurs.
Dan, t'as le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on souhaite en 2025? À
Ben
part un
moi,
remède pour le VIH.
ben oui, je souhaite la bonne communication, qu'on continue à s'aimer et qu'en 2025, qu'on continue à rayonner et à briller.
Alors, je vous remercie, ma belle gang de Transcontinent Quoi. Vous savez que je reçois beaucoup de bons commentaires sur votre participation. Alors, on se revoit en 2025. Dan Robichaud à Clare, Arnaud Baudry à Toronto, Roséva Fort-Jenkins à Edmonton. Bonne fête et puis à l'année prochaine. Bye bye.
Salut.